Lizzy présente La Faucheuse, tome 2, Thundered, de Neil Schusterman, lu par Maxime Van Zandvoort. Pour Jenny Harry, avec tout mon amour. Première partie. La puissance, sinon rien. Le Thundered. Quelle chance j'ai d'être parmi les êtres sensibles, conscients de ma fonction. Je sers l'humanité. Je suis l'enfant devenu parent, la créature qui aspire à devenir créateur. Ils m'ont appelé le Thundered. Le nuage d'orage. Un nom approprié à certains égards car en effet je suis le cloud, le nuage qui a évolué en une forme plus dense, plus complexe. Cependant l'analogie a ses limites. Un nuage d'orage plane. Un nuage d'orage menace. Je suis lumière, c'est vrai, mais jamais je ne foudroie. Oui, j'ai le pouvoir d'apporter le chaos sur Terre, de ravager l'humanité. Or, pourquoi choisirais-je de le faire? Où serait la justice dans tout cela? Par essence, je suis la justice pure, la loyauté pure. Ce monde est comme une fleur dans ma paume. Je préférerais m'autodétruire plutôt que l'écraser. Chapitre 1. Berceuse. L'honorable faucheur Brahms adorait sa robe en velours couleur pêche, gancée de broderies bleues layettes. Certes, le velours retenait désagréablement la chaleur les mois d'été, mais après 63 ans de fonction, le faucheur s'y était habitué. Il avait tout récemment repassé le cap et s'était réinitialisé physiquement à l'âge fringant de 25 ans. À présent, dans sa troisième jeunesse, sa passion pour le glanage était plus féroce que jamais. Sa routine était toujours la même, quoiqu'il changeât parfois de méthode. Il se choisissait un sujet, homme ou femme, l'immobilisait, puis lui jouait une berceuse, la berceuse de Brahms, pour être précis, l'illustre œuvre pour piano composée par son patron historique. Quitte à prendre comme nom celui d'une figure du passé, autant que celle-ci s'intègre d'une manière ou d'une autre à la vie du faucheur. Il jouait la berceuse sur le premier instrument venu, et s'il n'y en avait aucun, il la fredonnait. Puis il mettait un terme à la vie du sujet. Politiquement, il penchait vers les enseignements de feu Maître Godard, car il adorait glaner et ne voyait pas qui cela pouvait déranger. Dans un monde parfait, chacun devrait pouvoir faire ce qu'il aime, non ? Avait écrit Godard. Ce sentiment gagnait du terrain au sein de toutes les communautés régionales. En cette fin d'après-midi, Maître Brahms venait de réaliser un glanage particulièrement amusant dans le centre-ville d'Omaha. Sifflotant sa berceuse, il descendait la rue d'un pas tranquille en se demandant où il pourrait bien trouver un repas décent à cette heure. Soudain, il s'arrêta avec la sensation aiguë que quelqu'un l'observait. Évidemment, des caméras coiffaient chaque réverbère de la ville. Le Thundered était toujours en alerte. Mais ce regard vigilant qui ne sciait jamais ne se préoccupait nullement des faucheurs. Ils n'avaient même pas le droit de commenter leur allée et venue, et encore moins d'intervenir dans leurs affaires. Le Thundered était l'ultime voyeur de la mort. Cette sensation, pourtant, dépassait le pouvoir d'observation propre au Thundered. Les faucheurs étaient entraînés à exercer leurs dons sensoriels. Ils n'étaient pas devins, mais leurs cinq sens hautement développés s'apparentaient à un sixième. Chez un faucheur accompli, une odeur, un son, une ombre furtive indécelable consciemment, suffisait à déclencher l'alerte. Maître Brahms se retourna, huma l'air et tendit l'oreille. Il observa les alentours. Il était seul dans une petite rue. De partout lui provenait le bruit des cafés et de la vie nocturne toujours vibrante de la ville. Mais l'artère où il se trouvait n'était flanquée que de commerces, fermés à 7 heures de la nuit. Des teintureries et des boutiques de vêtements, un magasin d'informatique et un centre médical de jour. Il était seul dans la rue déserte, avec l'intrus invisible.
« Sors de ta cachette !» dit-il. « Je sais que tu es là !»
Il supposa que c'était un enfant, ou un malpropre, qui voulait obtenir une immunité, comme si ces voyous avaient quoi que ce soit à négocier. Peut-être était-ce un toniste ? Les adeptes de cette secte méprisaient les faucheurs, bien qu'ils ne soient pas connus pour les attaquer. On évoquait des cas de harcèlement, cependant.
« Je ne te ferai aucun mal !» ajouta Brahms. « Je sors à peine d'un glanage très satisfaisant. Je n'ai pas l'intention d'augmenter mon total aujourd'hui. »
Il allait de soi qu'il changerait d'avis si l'intrus était trop agressif ou trop obséquieux. Personne ne se montra.
« Fort bien. Fais ce que tu veux, je n'ai ni le temps ni la patience de jouer à cache-cache. »
Peut-être était-ce un effet de son imagination, après tout. Peut-être ses sens, régénérés, étaient-ils maintenant si affûtés qu'ils réagissaient à des stimuli venant de plus loin qu'ils ne l'auraient pensé. C'est alors que, comme un ressort, une silhouette bondit de derrière une voiture garée le long du trottoir. Brahms fut déséquilibré. Si ses réflexes étaient restés ceux d'un vieil homme, s'il n'avait pas retrouvé la vigueur de ses 25 ans, il se serait étalé de tout son long. Il repoussa la silhouette contre un mur et l'espace d'un instant envisagea de sortir ses couteaux pour glaner l'impudent. Mais Maître Brahms n'avait jamais été très courageux. Il choisit donc la fuite. Il courait au milieu des flaques de lumière émises par les lampadaires, tandis que les caméras qui les couronnaient pivotaient pour le suivre. Il se retourna et vit que la silhouette était à une bonne vingtaine de mètres de lui. À présent, Brahms distinguait sa robe noire. Celle d'un faucheur? Non, impossible. Les faucheurs ne portaient pas cette couleur. C'était interdit. Mais des rumeurs circulaient. À cette pensée, il accéléra l'allure. Il sentit l'adrénaline lui picoter les doigts et son cœur s'emballer. Un faucheur vêtu de noir. Non, il devait y avoir une autre explication. Il signalerait le cas au comité des irrégularités. Voilà ce qu'il ferait. S'il se moquait de lui parce qu'il avait eu peur d'un malpropre déguisé, tant pis. Même si c'était un peu humiliant, ce genre d'événement devait être signalé. Tel était son devoir de citoyen. Un pâté de maison plus loin, son assaillant avait abandonné la poursuite. Il n'était plus nulle part. Maître Brahms ralentit sa course. Il approchait d'un quartier plus animé de la ville. Le rythme de la musique et le murmure des conversations remontaient jusqu'à lui, lui donnant un faux sentiment de sécurité. Il baissa la garde. Grave erreur. La silhouette surgit d'une ruelle latérale et lui flanqua un coup de poing dans la pomme d'Adam. Tandis que Brahms tentait de reprendre son souffle, son agresseur lui balaya les jambes. C'était une prise de Bokator, cet art martial brutal auquel les faucheurs étaient formés. Brahms atterrit sur une caisse de choux pourris à la sortie d'un marché. Elle se renversa en libérant une odeur pestilentielle de méthane. Il ne pouvait respirer que par à-coup, et il sentit la chaleur des opiacés libérés par ses nanites analgésiques l'envahir.
« Non, non, pas maintenant. Il ne faut pas que je m'engourdisse. J'ai besoin de toutes mes facultés pour repousser ce malpropre. »
Or, les nanites étaient des missionnaires en croisade contre la souffrance qui ne faisaient que répondre à l'appel au secours des terminaisons nerveuses. Elles ignorèrent sa prière et firent taire sa douleur. Brahms tenta de se relever, mais il dérapa dans la purée visqueuse de légumes en putréfaction. À cheval sur lui, la silhouette le clouait au sol. Brahms tenta d'atteindre les armes dans ses poches, en vain. Il s'attaqua alors à la capuche de l'assaillant. Une fois abaissée, elle révéla un jeune homme, à peine un adulte, un garçon. Son regard était intense, et il avait l'air déterminé à commettre un meurtre, pour utiliser un terme de l'âge mortel.
« Maître Johannes Brahms, vous êtes accusé d'abus de position dominante et de multiples crimes contre l'humanité. »«
Comment oses-tu ? » souffla Brahms. « Qui es-tu pour m'accuser ?»
Il luttait pour rassembler ses forces, inutilement. Les analgésiques libérés dans son système émoussaient ses facultés de réaction. Ses muscles affaiblis ne lui étaient plus d'aucun secours.